Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge.
Je voudrais évoquer aujourd'hui une pièce qui a eu beaucoup de succès, une pièce de Jean Anouilh qui s'appelle Antigone. Alors, Antigone, c'est un mythe qui a inspiré beaucoup d'auteurs, Sophocle, Jean de Rotrou, pour parler de quelqu'un qui est proche de l'Eure-et-Loire, Jean Cocteau, entre autres, il y en a eu d'autres. Ah, pour mémoire, rappelons qui était Antigone. Alors, Antigone est la fille de Œdipe et de Jocaste. Vous vous rappelez Œdipe qui, sans le savoir, épouse sa mère Jocaste, avec qui il a 4 enfants. Alors, il y a Antigone, Isvène, Éthéocle et Polynice. Et à la mort, plutôt au départ d'Œdipe, les deux fils se disputent le pouvoir. Et l'un des deux sort vainqueur. On va plutôt les deux se tuent, s'entretuent, mais créant le frère de Jocaste qui a pris le pouvoir décide que l'un des deux sera déclaré champion de la ville alors que l'autre sera déclaré traître. Et être déclaré traître, cela veut dire être jeté en tant que cadavre dans une décharge publique avec interdiction de recouvrir le corps de terre pour l'empêcher de rejoindre le royaume qui est sous terre. Et la petite Antigone va décider qu'elle ne peut pas laisser son frère sans sépulture. Et malgré les ordres de son oncle, de Créon, elle va s'entêter, s'acharner à donner un semblant de sépulture à son frère. Alors, la pièce de Anouilh a été éditée en 1946. Et voici le début de cette pièce. Le début de cette pièce est un peu un clin d'œil aux artifices du théâtre. Tous les acteurs sont sur scène et il y a quelqu'un, un prologue, qui présente la pièce. Voilà le début de la pièce. Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas, qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle, elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune, et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre, mais il n'y a rien à faire, elle s'appelle Antigone, et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme. De nous tous qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène, son goût de la danse, des jeux, son goût du bonheur, de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène bien plus belle qu'Antigone. Mais puis, un soir où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui et elle lui a dit « Oui », avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse, Ismène riait aux éclats là-bas au milieu des autres garçons. Et voilà maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari Antigone sur cette terre, que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme robuste aux cheveux blancs qui médite là, près de son pas, c'est Créon. C'est le roi. Il a des rides, il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps d'Œdipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes, mais Œdipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches, il a pris leur place. Quelquefois, le soir, il est fatigué, il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres plus frustes. Et puis, au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre. Il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice, qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante. Elle ne lui est d'aucun secours. Créon est seul, avec son petit page qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Ce garçon pâle là-bas au fond, qui rêve adossé au mur solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure. C'est pour ça qu'il n'a pas envie de bavarder, de se mêler aux autres, il sait déjà. Enfin, les trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes, leurs chapeaux sur la nuque, ce sont les gardes. Oh, ce ne sont pas des mauvais boucs, ils sont des femmes, des enfants, des petits ennuis comme tout le monde, mais ils vous empoigneront les accusés le plus tranquille du monde, tranquillement du monde tout à l'heure. Ils sentent l'ail, le cuir et le vin rouge, et ils sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires, toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes de la justice. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes, dûment mandaté, leur ordonne de l'arrêter à son tour, ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Œdipe, Étéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Étéocle, l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère, sept grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les sept portes de Thèbes. Maintenant, la ville est sauvée. Les deux frères ennemis sont morts et Créon, le roi, a ordonné qu'à Étéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. C'est ainsi que commence la pièce et vous voyez, dès le début, il n'y a aucun suspense. On sait ce qui va se passer. On sait comment cela va se terminer. Ce qu'on ignore, et c'est ce que la pièce va essayer d'exprimer. Ce qu'on ignore, c'est le cheminement des personnages. Comment ils en arrivent à ce dénouement qui est inéluctable, puisqu'on nous l'a annoncé dès le début. Et alors, voici la présentation d'Antigone. Elle est avec sa nourrice. La nourrice, d'où viens-tu ? De me promener, nourrice, c'était beau, tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas savoir, tout est déjà rose, jaune, vert, c'est devenu une carte postale. Il faut se lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. La nourrice, je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir si tu n'es pas découverte en dormant. Je te trouve plus dans ton lit. Antigone, le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice, je l'ai vu, sans qu'il s'en doute. C'est beau, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Tu es sorti, j'étais à la porte du fond, tu l'avais laissé entrebâillée. Oh, dans les champs, c'était tout mouillé, et cela attendait, tout attendait. Je faisais un bruit énorme toute seule sur la route et j'étais gêné parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors, j'ai enlevé mes sandales, je me suis glissé dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Je ne me recoucherai pas ce matin. Tu crois que si on se levait comme ça tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors? La nuit, c'était la nuit et tu veux me faire croire que tu étais te promener, menteuse, d'où viens-tu? Antigone, c'est vrai. C'était encore la nuit, il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était déjà le matin. C'est merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour la première. Aujourd'hui, je vous propose une pause musicale.
Thank you.
pièce continue et nous assistons à la rencontre entre Antigone et sa sœur Ismène. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone.
Oui.
J'ai bien pensé toute la nuit, tu es folle.
Oui.
Nous ne pouvons pas.
Pourquoi ?
Il nous ferait mourir. Antigone, bien sûr. À chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions, Ismène ? Je ne veux pas mourir. Antigone. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir, Ismène. Écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aîné, je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête tout de suite, et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondéré, je réfléchis. Antigone. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone, d'abord, c'est horrible, bien sûr, et j'ai prié moi aussi. J'ai pitié moi aussi de mon frère, mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Ismène, il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Antigone, moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis, on la met dans un coin ou dans un trou, et c'est bien fait pour elle, n'avait qu'à ne pas désobéir. Ismène, allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà lancé. Écoute-moi. J'ai raison plus souvent que toi, Antigone. Je ne veux pas avoir raison. Ismène, essaie de comprendre au moins. Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous. Depuis que je suis toute petite, il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle eau fuyante et froide parce que ça mouille les dalles, à la terre parce que ça tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants qu'on rencontre, courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre, et boire quand on a chaud et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on a envie. Comprendre. Toujours comprendre, moi. Je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Si je deviens vieille. Et Antigone poursuit sur son chemin sans vouloir écouter les conseils. Et il y a un passage dans la pièce qui est assez étonnant et en même temps touchant. Elle se sépare de tout ce qu'il rattache à la terre et elle pense à sa chienne. Elle parle à sa nounou. Antigone, nounou, tu sais, douce ma chienne, la nourrice, oui. Tu vas me promettre que tu ne la gronderas plus jamais. La nourrice, une bête qui salit tout avec ses pattes, ça ne devrait pas entrer dans la maison. Antigone, même si elle salit tout, promet, nourrice. Alors il faudra que je la laisse tout abîmée sans rien dire. Oui, nounou. Ah, ce serait un peu fort. S'il te plaît, nounou. Tu l'aimes bien, douce, avec sa bonne grosse tête. Et puis, au fond, tu aimes bien frotter aussi. Tu serais très malheureux si tout restait propre toujours. Alors je te le demande. Ne la gronde pas. Si elle pisse sur mes tapis, promets que tu ne la gronderas tout de même pas. Je t'en prie. Dis, je t'en prie, nounou. Tu profites de ce que tu calines, c'est bon, c'est bon. On est sur A, sans rien dire. Tu me fais tourner en bourrique. Antigone, et puis, promets-moi aussi que tu lui parleras. Que tu lui parleras souvent. A-t-on vu ça, parler aux bêtes? Et justement, pas comme à une bête, comme à une vraie personne, comme tu m'entends faire. Ah, ça, non! À mon âge, faire l'idiote? Mais pourquoi veux-tu que toute la maison lui parle comme toi, cette bête? 6 mois, pour une raison, pour une autre, je ne pouvais plus lui parler. Plus lui parler, plus lui parler, pourquoi? Antigone ajoute à voix basse. Et puis, si elle était trop triste, s'il avait trop l'air d'attendre tout de même, le nez sous la porte, comme lorsque je suis sorti, il vaudrait peut-être mieux la faire tuer, nounou, sans qu'elle ait mal. La faire tuer, ma mignonne? Faire tuer ta chienne? Mais tu es folle ce matin. Antigone, non, nounou. Et c'est là qu'on va voir entrer en scène Aimon, le fils de Créon. Et Antigone va lui dire adieu sans qu'il réalise bien ce qui se passe. Antigone, écoute Aimon, Aimon, oui. Je voulais te dire ce matin, le petit garçon que nous aurions eu tous les deux, oui. Tu sais, je l'aurais bien défendu contre tout. Oui, Antigone. Oh, je l'aurais serré si fort qu'il n'aurait jamais eu peur, je te le jure, ni du soir qui vient, ni de l'angoisse, du plein soleil immobile, ni des ombres. Notre petit garçon aimant, il aurait eu une maman toute petite, mal peignée, mais plus sûr que toutes les vraies mères du monde, avec leur vraie poitrine et leur grand tablier. Tu crois, n'est-ce pas, toi? Oui, mon amour. Et tu crois aussi, n'est-ce pas, que toi, tu aurais eu une vraie femme? Aimon, j'ai une vraie femme. Oh, tu m'aimais, Aimon. Tu m'aimais, tu en es bien sûr ce soir-là, quel soir? Tu es bien sûr qu'à ce bal où tu es venu me chercher dans mon coin, tu ne t'es pas trompé de jeune fille, tu es sûr que tu n'as jamais regretté depuis, jamais pensé, même tout au fond de toi, même une fois, que tu aurais plutôt dû demander Ismène, Aimon, idiote. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme. Tes bras qui me serrent ne mentent pas, tes grande main posée sur mon dos ne monte pas, ni ton odeur, ni ce bon chaud, ni cette grande confiance qui m'inonde quand j'ai la tête au creux de ton cou. Aimon, oui, Antigone, je t'aime comme une femme. Antigone, je suis noire et maigre, en Ismène, et rose, et dorée comme un fruit. Aimon, Antigone, oh, je suis tout rouge de honte, mais il faut que je sache ce matin, dis la vérité, je t'en prie. Quand tu penses que je serai à toi, est-ce que tu sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Oui, Antigone. Moi, je sens comme cela et je voulais te dire que j'aurais été très fier d'être ta femme, ta vraie femme, sur qui tu aurais posé ta main le soir en t'asseyant, sans penser, comme sur une chose bien à toi. Voilà. Maintenant, je vais te dire encore 2 choses. Et quand je les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner. Même si elles te paraissent extraordinaires, même si elles te font de la peine, jure-le-moi. Qu'est-ce que tu vas me dire encore, Antigone? Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Tu vois comme je te demande, jure-le-moi, s'il te plaît, Aimon. C'est la dernière fois. C'est la dernière folie que tu auras à me passer. Aimon, je te le jure. Antigone, merci. Alors voilà. Hier d'abord, tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'étais venu avec une robe 10 semaines, ce parfum, ce rouge à lèvres, j'étais bête. Je n'étais pas très sûr que tu me désires vraiment. J'avais fait tout cela pour être un peu plus comme les autres filles, pour te donner envie de moi. C'était pour ça, oui. Et tu as ri, et nous nous sommes disputés. Mon mauvais caractère a été plus fort, je me suis sauvé. Mais j'étais venu chez toi pour que tu me prennes hier soir, pour que je sois ta femme. Avant. Tu as juré de ne pas me demander pourquoi tu m'as juré, moi. Je vais te dire, je voulais être ta femme quand même parce que je t'aime comme cela, moi, très fort, que je vais te faire de la peine. Oh mon chéri, pardon que jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. Sors, sors tout de suite, sans rien dire. Si tu pars, si tu fais un seul geste vers moi, je me jette par sa fenêtre, par cette fenêtre. Je te le jure, Raymond, je te le jure. Sur la tête du petit garçon que nous avons eu tous les deux en rêve, du seul petit garçon que j'aurai jamais. Pars maintenant, pars vite. Tu sauras demain. Tu sauras tout à l'heure. S'il te plaît, pars, Raymond. C'est tout ce que tu peux faire encore pour moi si tu m'aimes. Et évidemment, la tragédie s'enchaîne. Créon essaie de sauver Antigone, elle le refuse. Elle est arrêtée. Elle est murée vivante. Un garde vient raconter qu'on a ouvert le tombeau. Antigone s'est pendue. Aimon, le fils de Créon, a vu le cadavre et s'est tué sur le corps d'Antigone. Et l'épouse de Créon s'est tuée elle aussi. Antigone s'achève tandis que les gardes continuent à jouer aux cartes. Je vous remercie de m'avoir écouté.